Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quel est le moteur des relations internationales? Est-ce la volonté de puissance, la guerre économique, la volonté pour certains États d'étendre leur territoire, ou bien des éléments peut-être plus sentimentaux, moins visibles de prime abord, et notamment la question de l'humiliation? Eh bien, ce sont ces éléments que nous allons voir au cours de cette émission avec mon invité Étienne Degaille. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste géopolitique et vous venez de publier un ouvrage extrêmement stimulant chez Bouquin, alors que la collection Essais de Bouquin, qui s'intitule justement « L'humiliation », que vous présentez comme étant un des éléments, une des clés de fonctionnement des relations internationales. Et je le disais dans cette brève présentation de l'émission, quand on lit les ouvrages classiques de relations internationales ou de géopolitique, on présente plutôt, je dirais, des éléments un peu plus lourds comme étant la clé de ces relations. Alors il y a l'hubris, on l'a vu souvent au cours de l'histoire, il y a la volonté économique de prendre un territoire, pétrole ou autre. Et vous axez votre ouvrage sur cette notion d'humiliation qui prend un petit peu la théorie classique un petit peu à rebours. Pourquoi avoir consacré cet ouvrage à l'humiliation et en quoi c'est une des lectures ou une des clés de lecture ou la clé de lecture des relations internationales?
Alors la notion d'humiliation m'est apparue avec des lectures quand j'étais encore étudiant. Et elle m'a paru complémentaire avec les approches que vous venez de décrire, donc plus classiques, et notamment celles qu'on appelle réalistes. Mais même si les écoles néo-réalistes prennent en compte quand même ces facteurs-là, parce que les facteurs classiques de puissance ne sont pas suffisants pour comprendre la façon dont fonctionne le monde, dont les crises éclatent et parfois se résolvent. Voilà comment ce facteur-là m'est apparu. Et c'est vrai qu'il me paraît non pas exhaustif, mais indispensable dans beaucoup, beaucoup de crises internationales, dont trois exemples que je développe dans le livre, qui sont la relation franco-allemande depuis 2 siècles, l'histoire du Proche-Orient depuis 2 siècles aussi, et, sujet d'actualité, la Russie post-soviétique, donc l'humiliation post-soviétique de la Russie, au moins durant la décennie 1990.
Quand on parle de l'humiliation, ça renvoie à la notion de représentation. C'est Yves Lacoste a fondé une partie de ses réflexions, cette notion de représentation. On peut dire qu'il y a l'humiliation réelle, et puis l'humiliation telle qu'elle est imaginée ou telle qu'elle est interprétée. Un État peut aussi s'imaginer avoir été humilié ou créer une forme d'humiliation pour justifier après de sa politique.
Oui, absolument. Alors c'est ce qui est très compliqué avec les sentiments, les passions en général, et a fortiori l'humiliation, puisqu'elle touche à l'identité même de l'individu ou du collectif dont il est question. Et il est très difficile d'imposer sa vision, il est très difficile d'imposer son ressenti aux autres, puisqu'il est de par nature subjectif. Et c'est là toute la complexité, puisqu'il faut distinguer, c'est ce que j'essaye de faire notamment pour l'exemple russe, le ressenti légitime, en tout cas qui est difficilement niable du peuple russe durant la décennie 90, la part ou non de responsabilité, donc de l'humiliateur, que seraient les Occidentaux, à la tête desquels les États-Unis, et ensuite la manipulation qui en est faite. Et c'est là que ça devient d'autant plus sensible et délicat en géopolitique, puisque les représentations, ce qu'on appelle aussi parfois la façon de les présenter, les narratifs, sont une façon, sont un levier de puissance et un outil pour développer cette puissance et imposer sa vision du monde.
Alors vous évoquez le cas russe, là on est vraiment au cœur du sujet, parce qu'on le voit quand on se place du côté russe, c'est l'argument qui est invoqué en disant « vous nous aviez promis que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN, que l'OTAN n'avancerait pas jusqu'à nos frontières, et vous avez vous n'avez pas respecté notre promesse. Bon, on sait que cette théorie est complexe, mais et puis vous avez humilié la Russie. Bon, en tout cas, c'est là-dessus qu'est fondé tout le discours, qui est une justification de l'invasion de février 2022.
Absolument, absolument. Alors, ce livre a été écrit en fait avant l'invasion terrible de février 2022, et donc, je le répète le plus souvent possible, pour moi, il n'y a pas de lien direct. En tout cas, je n'en trace pas de lien direct entre l'humiliation des années 90 et la guerre qui dure depuis février 2022. Par contre, ce qui me paraît indéniable, c'est ce ressentiment de la population russe, mais qui a plusieurs sources. Il a une source d'abord, il n'y a pas d'humiliateur direct, c'est-à-dire que en mettant fin à la guerre froide, Gorbatchev lui-même a été considéré comme un humiliateur de la Russie par les Russes. Mais il n'y a pas eu de victoire ou de défaite dans cette guerre froide, en fait, puisque c'est un mouvement qui a été initié par Gorbatchev et qui a été co-géré avec l'Occident en général. Mais c'est quand même une première humiliation, puisque les Russes sont passés d'un statut de superpuissance à un statut de puissance secondaire et négligé. Ce à quoi s'est ajouté la thérapie de choc, donc il y a été une série de crises de... qui a été une série de réformes qui a été demandée par le gouvernement d'Eltsine, mais qui a été mis en place notamment sous l'impulsion de conseillers américains. Donc le peuple russe a rejeté la faute sur les États-Unis, à tort ou à raison, on aurait plutôt tendance à dire à tort cette fois-ci, sur ce coup-là, mais ça a eu des conséquences terribles pour la population russe, dont plus de la moitié est tombée dans l'extrême pauvreté, la criminalité s'est développé sur les ruines du communisme. Bon, ça a été très compliqué pour eux. Il y a d'ailleurs un auteur qui parle de la thérapie de choc en parlant comme d'un choc sans thérapie pour la population russe, ce qui cadre bien les choses. Mais ce sont, donc là, disons que c'est cette première humiliation qui me paraît indéniable, c'est une humiliation post-impériale, en fait, post-soviétique. Il y a eu ensuite une deuxième humiliation qui n'est, à mon sens, pas volontaire de la part de l'Occident, et qui est plutôt en fait le signe d'un mépris involontaire, et qui est le signe, vous en parlez tout à l'heure, d'hubris. C'est une hubris d'abord américaine, qui, pensant que la guerre froide était finie, et dans la tête de certains dirigeants, penseurs, stratèges américains, ont imaginé que c'est les États-Unis qui avaient gagné. Donc c'est tout ce qui a amené ensuite à la thèse de la fin de l'histoire de Fukuyama, l'idée d'un... un peu dans une veine eschatologique d'une victoire du libéralisme, de la démocratie de marché et de toutes les valeurs qui y sont associées. Donc ça, ça a été vécu de façon... ça a été vécu comme une vraie humiliation en Russie, puisque ça s'est ajouté aux deux autres que je viens de citer, aux deux autres humiliations, et la responsabilité a été mise sur l'Occident. Dans son ensemble. Et ensuite, il y a d'autres humiliations dont on pourra peut-être reparler, qui sont celles d'une extension effectivement de l'OTAN. Alors, ça me paraît impossible de trancher le débat. C'est ce que vous disiez, le débat de la promesse qui a été faite ou non à Gorbatchev par les Occidentaux de ne pas étendre l'OTAN d'un pouce à l'Est. Il y a des sources contradictoires. Gorbatchev lui-même a dit qu'on ne lui avait jamais fait cette promesse, mais... cette affirmation-là peut s'expliquer aussi par d'autres éléments, d'autres facteurs. Donc c'est une question trop difficile à trancher, et c'est un débat aussi, à mon avis, un peu trop délicat dans le contexte actuel. Mais, quoi qu'il en soit, l'extension de l'OTAN en 99, en 2004 et encore en 2009 a été vécue comme autant d'affronts en Russie, et ça s'est ajouté aux autres.
Sur la question du débat OTAN, j'envoie nos éditeurs un excellent article d'Alexis Ferchak dans le Figaro, qui de mémoire est paru en mars ou avril 2022, où il montre justement la complexité de ce sujet, et qu'on ne peut pas vraiment trancher, et qu'il y a aussi beaucoup de non-dits sur le sujet. Sur la question de l'humiliation, le président Emmanuel Macron avait eu cette formule en disant « il ne faut pas humilier la Russie ». Sous-entendu, il ne faut pas justement les renvoyer dans l'humiliation. Quand on est un État, on prend par exemple le cas français, et, ou quand on est dans un cadre diplomatique, si on comprend que l'autre est dans une logique d'humiliation, comment est-ce qu'on peut mener une politique qui ne cherche pas d'un côté à humilier, mais d'un autre qui cherche aussi à défendre ses intérêts ? On peut dire que ne pas vouloir humilier l'autre, c'est parfois renoncer à ce que l'on est aussi, ou c'est accréditer les thèses de l'autre personne ou de l'autre état.
Oui, absolument. C'est d'autant plus difficile dans une activité aussi compliquée que l'actualité est, avec la guerre en Russie. C'est une vaste question, c'est vraiment un sujet très délicat. Je crois qu'il faut réussir à prendre le temps, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est aux responsabilités, de prendre un peu de recul, d'avoir le recul historique. C'est ce que j'essaye de faire là avec ce livre-là. C'est prendre le temps du débat, le temps de la réflexion, pour rappeler des éléments historiques, certains indéniables, d'autres discutables, et tout ça dans ce magma d'émotions, de sentiments, donc de subjectifs. Et il faut y réussir à tirer ses cartes du jeu dans cet ensemble-là qui est très complexe, qui est très mouvant. Mais pour répondre à votre question, comment faire ?
On la trace ça au diplomate, donc c'est oui. Donc c'est le métier. Autre élément sur l'humiliation, c'est la question de l'opinion publique, puisque alors il y a le cas non de la guerre en Ukraine, mais les autres cas aussi que vous évoquez. Il y a d'un côté les dirigeants qui peuvent utiliser ou manipuler l'opinion publique, qui elle va avoir sa propre lecture. Si on prend le cas franco-allemand, par exemple, évidemment, le 8 mai 1945 n'est pas vu de la même manière d'un côté ou de l'autre du Rhin, pareil pour le 11 novembre. Et l'opinion publique joue un rôle important parce qu'elle aussi, elle peut ressentir une humiliation qui peut être réelle ou qui peut être créée ou alimentée par un gouvernement qui la manipule ou qui l'utilise.
Oui, absolument. Alors, le rôle des passions en politique, a fortiori en géopolitique, a pris une importance considérable avec le développement, enfin, l'apparition puis le développement du phénomène de l'opinion publique. Puisqu'avant, les populations n'exultaient pas tant que ça en fonction des victoires militaires et autres de leurs souverains. Mais à partir du moment où l'opinion publique s'est formée et a pu s'emparer de ces sujets-là, elle a eu une vraie influence sur les décisions de politique étrangère, la façon de la mener ou non. C'est quelque chose qui se voit notamment dès la bataille d'Iéna, sur laquelle commence le chapitre sur la relation franco-allemande, et qui se développe tout au long du 19e, puis du 20e, à nouveau au 21e, et qui est exacerbée avec l'hystérisation du débat, si on peut appeler ça le débat, sur les réseaux sociaux, où chacun peut avoir un avis à n'importe quel moment, sur n'importe quel sujet, sans expertise. Et les pressions se font d'autant plus fortes sur les décideurs. Sur la question de la façon dont les opinions publiques ressentent ou non l'humiliation, si c'est manipulé ou pas, en fait c'est au cas par cas. Donc on a parlé du cas de la Russie, sur le cas par exemple du Proche-Orient, ça a été un long mouvement, très lent, qui s'est accompagné donc de cette formation d'une opinion publique qui n'est pas du tout la même qu'en Occident, puisque le débat public ne répond pas aux mêmes règles. Georges Corme a une très bonne expression, il parle des peuples du Proche-Orient en disant qu'ils sont privés de langage politique moderne, c'est-à-dire qu'effectivement ils n'ont pas la possibilité, ou en tout cas ils n'ont pas eu jusqu'à un certain moment, la possibilité de s'exprimer, de prendre part au débat public et donc d'influencer d'une façon ou d'une autre les décisions de politique étrangère. Donc ça dépend des conditions de la politique de l'opinion publique, ça dépend de si elle est écoutée ou non, si elle est muselée ou non, moi j'ai tendance à dire que de plus en plus les opinions publiques ont une influence sur les décisions de politique étrangère, et on en revient à la mise en garde de Tocqueville qui expliquait déjà que le problème des démocraties, l'un des risques à venir était que en termes de politique étrangère, que la politique étrangère des démocraties soit de plus en plus fonction des impératifs de la politique intérieure, alors que ce sont deux choses à mon avis qui doivent être vraiment distinctes. Et il parlait des démocraties, mais c'est de plus en plus le cas aussi dans les régimes autoritaires, puisque en Russie, pour reprendre cet exemple-là, Poutine a compris dès le début que sa population exultait ou, au contraire, pestait en fonction de ses réussites ou de ses échecs en termes de politique étrangère, et donc de sa capacité à redonner ou non une puissance la puissance perdue à la Russie. C'est la même chose en Turquie, par exemple, où le président turc, alors que des élections présidentielles doivent avoir lieu dans quelques mois en Turquie, essaye de se donner un rôle de médiateur dans la crise russo-ukrainienne. Essaye aussi, bloque, donc pour affirmer la fierté de son pays, bloque l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Donc, bon, ça n'est pas qu'un problème de démocratie, mais c'est vrai, a fortiori dans la démocratie.
Oui, ce qui veut dire que même dans les régimes autoritaires, là, il y a une sorte de démocratie implicite par la population, par les manifestations qu'elles peuvent avoir. On l'a vu d'ailleurs, il y a 20 ans maintenant, mais en 2003, au moment de la Deuxième Guerre en Irak, où, si on prend le cas français, Jacques Chirac s'oppose à l'intervention américaine, mais la population française y était complètement opposée. Donc même s'il avait été pour, il n'aurait pas pu aller contre cette opinion quasiment générale, d'ailleurs, d'opposition à la guerre.
Oui, presque unanime. Il n'aurait pas pu, il aurait pu s'il avait voulu, on voit qu'on est capable de faire passer les choses en force, donc même dans les démocraties, donc il aurait pu, mais oui, ça a une vraie influence, a fortiori sur des dirigeants qui sont sensibles au mouvement de l'opinion publique. Mais ça me paraît, c'est une très bonne réflexion, parce que ça me paraît de plus en plus compliqué de faire des choses lorsqu'on touche à des valeurs qui elles aussi sont dans le registre du ressenti, du subjectif, de faire ça contre le peuple, contre l'opinion publique en tout cas.
Et est-ce que c'est pas de manière générale le fait que le sens même de la raison est en train de s'effacer, ou que on parle souvent du dialogue, mais dans le dialogue il y a le terme de logos, or le logos disparaît au profit du pathos. Cette notion d'humiliation, est-ce que ce n'est pas la victoire du pathos, alors dans les questions des relations internationales, mais y compris dans la vie politique ordinaire?
Oui, absolument, je suis absolument d'accord. Il y a la raison recule à mesure que la vie affective prend une place prépondérante. Et je crois que ça a à voir avec les marées numériques qu'on connaît et auxquelles on n'est pas encore capable de s'adapter. Ce qui est assez délicat sur ce sujet, c'est que je crois qu'effectivement la raison recule, parce que le vrai sujet au centre de tout ça, c'est que la notion même de consensus est de plus en plus difficile à trouver. Donc ça s'explique, ce que je disais, par le numérique, pour le prendre comme ça dans son ensemble, un peu grossièrement, mais ça s'explique aussi par toutes les tendances au communautarisme, à l'individualisme en tout cas, à cette apparente impossibilité à créer du commun à travailler ensemble à un commun, qui soit un bien commun, mais en tout cas un commun. S'il n'y a plus de consensus, ça devient le règne effectivement de l'individualité et donc de l'affect. Et donc il y a énormément de différents phénomènes qui concordent à ce constat-là, donc le numérique, donc la remise en question de la raison, mais même dans son sens le plus classique en Occident, c'est-à-dire la remise en question de la science. Certains auteurs parlent de régime de post-vérité, donc qui a à voir à la fois avec la remise en question de la science, du débat et de toutes les valeurs qui sont à la base de notre science moderne occidentale. Mais pas seulement. J'ouvre d'ailleurs le livre là-dessus. Effectivement, notamment la notion d'humiliation, c'est quelque chose qui m'avait interrogé. On en entend en permanence parler. Je suis un grand fan de rugby, et on parle notamment, l'Angleterre a perdu le tournoi de destination contre la France, et on a parlé d'une humiliation à Twickenham. On parle d'humiliation de la rue par le président de la République en ce moment. On parle d'humiliation en fait en permanence dans le débat public à propos du sport, donc à propos de la politique, à propos du social aussi. Il y a pas mal d'écrits qui sont publiés sur l'humiliation, là d'un point de vue politique mais interne. Donc c'est à mon avis une notion qui tend à être galvaudée, qu'on peut comparer un peu à celle de domination aussi, où il y a de la domination un peu dans tous les sens, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Mais c'est le signe, je pense, peut-être d'un débat public qui se dérègle un peu, mais surtout effectivement d'une vie affective qui prend de plus en plus de part, du maire général.
Vous évoquez la question des communs, ça fait penser au mouvement wokiste, par exemple. Là, on est en plein dans cette notion d'humiliation, de réécriture ou de relecture de l'histoire. Effectivement, on parle de domination, et il y a une essentialisation des personnes qui sont rangées dans une case, dont elles ne peuvent pas sortir, et par leur appartenance à cette case, elles sont humiliées et dominées, ou bien l'humiliateur et le dominateur.
Oui, absolument. Et là, à nouveau, on est dans l'arène des affects, et le problème de l'affect, c'est qu'il doit évidemment être pris en compte d'une manière générale, parce que ce serait trop simpliste de penser les individus uniquement comme des individus rationnels, donc mus par leurs intérêts. Ça revient à la discussion du début. Donc il faut prendre en compte cette vie affective, mais il ne faut pas en faire un critère absolu, puisque malheureusement, un affect, on ne peut qu'opposer un affect, et il n'y a pas d'argumentation possible, puisque on est à nouveau dans le domaine du subjectif, et qu'au subjectif, on ne peut répondre que par du subjectif, en tout cas si la personne qui oppose un subjectif ne veut pas croire à l'objectif. C'est ça qui est très compliqué.
En philosophie classique, c'est l'enfant qui est plein d'affects, mais non, le passage à l'âge adulte, c'est justement de maîtriser ses passions et d'arriver vers quelque chose de plus rationnel et raisonnable.
Oui, absolument.
En quelque sorte, on maintient les gens dans l'enfance.
Exactement. En tout cas, je crois que l'éducation doit apprendre à l'enfant la frustration. Donc ça revient exactement à ce que vous dites. Et je crois qu'on accepte de moins en moins la frustration, et ça a aussi à voir avec ce phénomène qui est vieux maintenant, disons, qui dure depuis longtemps, mais d'individualisation et d'individuation des sociétés occidentales, même si ça ne touche pas qu'elles. Si chaque individu a une valeur propre plus importante que celle du groupe, même s'il faut nuancer tout ça, évidemment, c'est évident que ça devient très compliqué de proposer un commun ou d'apprendre la frustration, d'apprendre à user effectivement de sa raison pour régler un peu sa vie affective.
Alors, vous évoquiez le Proche-Orient tout à l'heure. On va y revenir, parce que là, la question de l'humiliation est omniprésente, notamment la question des accords de Saïd-Pekot. On voit que ça revient souvent comme étant un leitmotiv, en disant c'est un peu l'origine de tous les malheurs. Cette ligne tracée dans le désert, qui en fait à l'époque n'avait pas beaucoup d'incidence, mais pour des États en faillite ou pour des États qui n'arrivent pas à apporter un bien-être matériel à leur population, renvoyer à ces accords comme péché originel de la formation ou des malheurs du Proche-Orient est un aspect bien commode.
Oui, absolument, c'est bien commode. Moi, je suis tout de même assez d'accord pour dire que ces accords sont les accords d'un temps révolu. À une époque, on pouvait effectivement diviser des territoires comme des parts de gâteau et sans prendre en considération les préexistences d'organisation du territoire, d'organisation sociale et autres. Mais c'est effectivement bien commode pour des gouvernements ou des dirigeants qui ne savent pas faire autre chose que préserver leur propre intérêt que de rejeter la faute sur l'extérieur. Absolument.
Et en Afrique, c'est un peu la même situation aussi. Alors pareil, l'action des frontières qui effectivement ont été dessinées un peu avant 1960, mais devenues effectives en 1960. On voit bien que le ressentiment anti-français, on parle même de sentiment anti-français, enfin c'est plutôt du ressentiment, où cette logique d'humiliation est activée aussi pour chasser les dernières positions françaises.
Oui, absolument. Alors je pense que les situations sont différentes entre le Proche-Orient et l'Afrique. D'un point de vue historique, mais oui, sur le ressentiment français, le ressentiment anti-français, pardon, en Afrique, c'est utilisé par les dirigeants au pouvoir, les juntes au pouvoir, parce que c'est à nouveau un... Alors là, c'est plutôt... disons que c'est presque plutôt l'inverse que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est plus la politique extérieure qui est faite sur des considérations intérieures, mais peut-être les politiques intérieures qui est faite aussi sur des considérations extérieures. En tout cas, ça peut aller dans les deux sens. Ça sert les intérêts des autres puissances qui, elles, veulent prendre la place de la France dans un certain nombre de pays. C'est aussi un sujet très délicat. Je crois qu'il y a une part du ressentiment qui est légitime, mais sa manipulation dénature le ressentiment et ne permet pas de le dépasser.
Et quand on regarde côté de l'Organisation des relations internationales, notamment l'ONU, qui est d'ailleurs une des grandes absentes de cette guerre en Ukraine, comment, si l'humiliation est la clé des relations internationales, ou une des clés de lecture des relations internationales, comment est-ce qu'une structure internationale, type ONU, peut intervenir, ou quel est son rôle par rapport à ces questions d'humiliation et de résorption des humiliations réelles ou ressenties ?
Son rôle, ce serait celui d'un régulateur, en fait, tout simplement. Malheureusement, elle n'y parvient pas pour toutes les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, la façon dont il fonctionne, le fait que y a l'agresseur actuel, la Russie, au sein du Conseil de sécurité qui peut bloquer, la rivalité systémique qui se met en place entre la Chine et les États-Unis, et aussi une autre cause de blocage. Et puis, de toute façon, la Hubert Védrine, qui a eu la gentillesse de préfacer le livre, lui parle de la communauté internationale comme d'une chimère. Donc, c'est un vœu pieux, mais qui, pour l'instant, n'existe pas, et on en voit bien les limites avec la crise actuelle. Donc, oui, ce serait celle d'un régulateur. Et donc, un autre auteur, en l'occurrence un professeur brillant, Bertrand Badie, lui a parlé de l'humiliation d'un point de vue systémique, c'est-à-dire que selon lui, l'ONU notamment, en tout cas tout le système international qui a été créé après 1945, est lui-même un producteur d'humiliation en permanence, puisque en lieu et place d'une communauté internationale, il y a en réalité un club de puissance élitiste, disons, dont le seul objectif est d'empêcher les autres puissances montantes de prendre leur place. Et ce qui est extrêmement humiliant pour des pays qui font en sorte pourtant de développer leur puissance, de sortir d'états, disons, économiques, quand on parle de pays en développement, et qui se voient refuser l'entrée dans ce club-là des grandes puissances.
C'est le cas de l'Inde, qui sera bientôt la première puissance mondiale d'un point de vue démographique, qui est une grande puissance économique et militaire, mais qui est complètement exclue de... Enfin, exclue de l'ONU, ils sont membres de l'ONU, mais ils n'ont pas leur mot à dire sur la direction du monde.
Oui, absolument. Mais là, ça nous emmène sur un autre sujet, qui est aussi d'une actualité brûlante. C'est tous ces pays, dont l'Inde, même si elle le fait à bas bruit, qui travaillent à un monde post-occidental. Et donc, qui acceptent, qui ont compris, certains, d'autres continuent à le refuser, à la tête desquels la Russie, mais qui ont compris qu'il fallait jouer avec les règles du jeu international tel qu'il était pour l'instant, en faisant profil bas, mais dont on entend les revendications, effectivement, à un monde post-occidental, en tout cas une multipolarité de plus en plus affirmée, et donc à... alors c'est pas toujours dit comme ça, mais donc à une fin de l'hégémonie américaine, qui est de toute façon de plus en plus contestée, mais même en Inde, qui paraît être la puissance qui va permettre d'équilibrer les choses en Asie face à la Chine, donc qui est un allié privilégié, notamment des États-Unis, mais aussi de la France, qui veut peser en Indo-Pacifique, donc il y a besoin de l'Inde pour ça. En fait, on entend quand même des membres du gouvernement indien, ou en tout cas du parti de gouvernement, du parti au pouvoir, qui travaillent à un monde post-occidental en disant que ça y est, c'est fini. C'est fini, ça a duré 3-4 siècles, et maintenant, il faut laisser sa place aux autres, et que le monde finissant, on le laissera tranquille, mais il n'a plus la place prépondérante qu'il avait.
Et est-ce que l'humiliation n'est pas une arme contre l'Occident, parce que c'est toujours un peu la faute de l'Occident, qui a colonisé, qui a imposé sa domination, qui a effectivement eu sa période de domination du monde. Est-ce que cette humiliation n'est pas une manière de combattre l'Occident, d'ailleurs avec ses propres armes, puisque si on regarde le cas du Japon, par exemple, il n'y a pas beaucoup de sentiments à l'égard de ce qu'ils ont pu faire en Chine quand ils ont occupé la Chine, ou l'Inde aussi ne... ne pas interroger son histoire, mais on utilise ce ressort sentimental de culpabilité de l'Occident pour le retourner contre lui.
Oui, absolument. C'est l'une des forces, alors que moi je condamne évidemment, mais c'est l'une des forces d'un certain nombre de régimes autoritaires dans le monde. Donc là, à nouveau, la Russie, la Chine, peut-être moins l'Inde, mais si on prend la Russie et la Chine, par exemple, mais deux pays africains dont on parlait, c'est de se servir des fragilités occidentales Donc il y a notamment la notion de guerre culturelle que je trouve très intéressante pour parler des débats virulents en Occident et s'en servir pour les retourner effectivement contre ces pays. Donc si par exemple le débat qui a lieu à nouveau aux États-Unis sur le droit à l'avortement, on voit que ça oppose en fait toujours deux franges, pour dire ça facilement, donc des conservateurs et des libéraux / progressistes, et les pays comme la Chine ou la Russie vont se servir de la guerre de l'information pour exacerber les tensions et faire en sorte, en tout cas c'est ce qu'elle souhaiterait, que les sociétés occidentales implosent et que ces puissances-là n'aient pas besoin de guerre autre qu'une guerre informationnelle pour gagner. Donc elles s'en servent à raison pour leur stratégie, pour leurs intérêts. Et effectivement, c'est donc à nous en face de régler nos problèmes, nos pathologies, et d'éviter d'offrir comme ça sur un plateau effectivement des leviers à ces pays-là.
Et on parlait tout à l'heure du recul du logos ou de la logique. Est-ce que c'est pas aussi une des conséquences de ce que l'on subit d'une perte de culture au sein de l'école? Alors, prenons le cas français, celui que je connais le mieux, mais une perte de la culture classique ou une perte tout simplement de la formation qui fait qu'on a des populations qui sont beaucoup plus perméables à tout discours d'humiliation ou de guerre de l'information?
Je pense que ça joue. C'est un domaine sur lequel je ne suis pas expert, donc j'ai toujours un peu du mal à m'avancer ou donner simplement l'avis de citoyen. Ça joue indéniablement, mais c'est un facteur parmi d'autres dans toutes ces transformations qui, de toute façon, sont là. Et moi, j'ai tendance à essayer de prendre en compte les transformations qui sont là, donc les transformations sociales, sociétales et autres, et essayer de faire au mieux avec ce qui se passe. Et je crois que ça ne sert à rien de nager à contre-courant. Parce que ça nous épuise et ça nous empêche d'utiliser notre énergie à bon escient. Mais oui, c'est indéniable qu'il y a une baisse de niveau général, à la fois absolue et relative par rapport aux autres pays. Mais oui, c'est indéniable.
Et vous évoquez le cas franco-allemand dans votre ouvrage. Est-ce que la politique allemande aujourd'hui qui est menée n'est pas une volonté de revanche par rapport à une humiliation qui aurait pu être la sienne, c'est-à-dire une perte de présence politique sur la scène européenne? Et on le voit aujourd'hui, notamment dans l'Union européenne, les principaux postes sont occupés par des Allemands. La politique énergétique a été aussi ou est toujours dictée par l'Allemagne. Est-ce que ce n'est pas une forme de revanche, d'effacer une humiliation passée?
Je ne crois pas qu'il y ait de question de revanche avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne post-45 a quand même suivi, disons, en interne, une thérapie tellement importante de remise en question de son passé, de ses fautes, que je ne suis pas certain que la notion de revanche soit encore présente dans la psyché allemande. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'histoire des relations franco-allemandes explique ce qui se passe en fait depuis 1990 en Europe, entre la France et l'Allemagne, et notamment ce que... Apparemment, beaucoup de décideurs français ont encore eu du mal à incorporer. C'est cette nouvelle donne d'une Allemagne réunifiée et qui a ajouté à sa puissance économique une puissance politique. Selon moi, il y a trois événements majeurs qu'on n'a peut-être pas assez pris en compte et qui expliquent qu'aujourd'hui, on regarde horrifié l'Allemagne suivre une politique qui sert ses intérêts. Là, Emmanuel Macron fait à peu près la même chose en Chine, mais on a été horrifié qu'Olaf Scholz parte tout seul il y a quelques mois en Allemagne pour défendre sa relation commerciale, en Allemagne, en Chine, défendre sa relation commerciale avec la Chine. Donc ces trois événements, le premier c'est donc la réunification, et qui a eu pour conséquence, une des premières conséquences, c'est que la capitale politique de l'Allemagne est passée de Bonn à Berlin. Donc la boussole politique et géopolitique de l'Allemagne est passée d'une Europe de l'Ouest à une Europe de l'Est. Et c'est ce qui continue à se passer là de plus en plus, avec une proximité avec un certain nombre de pays de l'Est, Et même, bon, ça tient à d'autres facteurs, même une volonté d'élargissement de l'Europe à l'Est, parce que l'Allemagne sait aussi que ça sert son influence en Europe. La deuxième chose, c'est qu'on est aussi passé d'une génération de décideurs allemands qui, disons, sont nés ou ont grandi sous la réconciliation franco-allemande, et donc toutes ses conséquences, et aussi dans une Allemagne faible politiquement. Les décideurs qui sont aujourd'hui au pouvoir sont nés ou ont grandi dans une Allemagne en passe d'être unifiée ou dans une Allemagne réunifiée. Et donc la relation franco-allemande n'a plus du tout la même importance pour eux. Ils reviennent aux bases allemandes de la politique étrangère, qui était déjà aussi celle de l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire une base atlantiste, qui repose beaucoup sur une approche mercantiliste des relations internationales. Donc ça, j'ai parlé de trois événements, donc ça, ce sont les deux premiers. Et le dernier, c'est qu'effectivement, maintenant que l'Allemagne a retrouvé sa puissance, depuis 30 ans, a retrouvé sa puissance politique, elle assume une politique de puissance. C'est-à-dire une politique de puissance économique d'abord, et on va voir si ça va pas être de plus en plus une politique de puissance géopolitique.
Merci beaucoup, Étienne de Gaille, d'avoir évoqué « Micro de conflit, cette humiliation » qui est le titre de votre ouvrage paru chez Bouquin dans la collection Essai. Toutes les références, comme chaque semaine, sont à retrouver sur le site internet de Conflit, site internet sur lequel vous pouvez également retrouver notre numéro actuel qui est consacré à l'Indo-Pacifique, un ancien numéro consacré aux mercenaires. Les numéros sont à retrouver en format papier et en format numérique. Et puis vous pouvez également vous abonner. Vous abonner est la meilleure manière de soutenir Conflit et de nous permettre de continuer à nous développer. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.